Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 17 juin 2022 au sommaire, cette semaine 5 articles. La supply chain amorce sa transformation digitale, à lire sur e-commercemag.fr. Ces technologies qui donnent envie de retourner en magasin, à lire sur le JDN. La transformation responsable des marques, mythe ou réalité, à lire sur e-marketing.fr. Les impacts positifs et négatifs de la mode de seconde main, à lire sur le JDN. La Fédération nationale de l'habillement demande à revoir la politique de solde, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcasts pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous, vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Par ailleurs, je vous invite à découvrir le nouvel épisode de la semaine, le numéro 142, dans lequel nous parlons champagne avec Édouard Roy, cofondateur et CEO des Champagnes EPC. Plus de 300 000 bouteilles vendues en moins de 3 ans, une croissance fulgurante. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. La supply chain amorce sa transformation digitale, à lire sur e-commercemag.fr en date du 8 juin. Face aux nombreuses difficultés impactant la supply chain, le digital apparaît comme une solution pour mieux maîtriser les risques, gagner en efficacité et répondre aux enjeux RSE. Mais plusieurs freins restent encore à lever pour gagner en maturité. Le cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb a dévoilé début juin les résultats d'une étude sur la supply chain. Nommée Digital Supply Chain, elle est le fruit d'une enquête menée auprès de 110 directions supply chain entre décembre 2021 et février 2022. Alors que les entreprises faisaient face à une reprise économique, post-Covid assortie à une forte volatilité, des marchés. Dans ce contexte, l'amélioration de la visibilité et de la traçabilité apparaît comme une principale préoccupation des directions supply chain, alors que ce critère était placé en deuxième position lors de l'édition 2021. La succession des crises et des changements brutaux ont fait prendre conscience à de nombreuses directions qu'elles n'avaient pas une visibilité complète de leur supply chain. Certaines ont été confrontées à des ruptures au niveau du deuxième, troisième ou quatrième niveau de la chaîne d'approvisionnement qu'elles n'étaient pas en mesure de maîtriser, explique Michel Lachkar, associé responsable des activités supply chain chez PwC France et Maghreb. Par ailleurs, l'année dernière a également été compliquée d'un point de vue du service client qui s'est globalement dégradé en raison des pénuries et d'une forte volatilité qui ont entraîné un allongement des délais d'approvisionnement. Selon l'étude de PwC, l'amélioration du service client arrive en deuxième position des challenges à relever pour les directions supply chain. Le digital en fer de lance. Pour mieux maîtriser ces risques, le digital apparaît comme une solution essentielle. 87% des répondants indiquent que les nouvelles technologies devraient avoir un impact majeur sur leur activité à horizon 2025, soit 11 points de plus qu'en 2021. Le digital permet notamment de résoudre des situations de plus en plus complexes en analysant un grand nombre de données issues de la supply chain, souligne Michel Lachkar. En outre, les nouvelles technologies sont également utilisées sur les plateformes de logistique pour automatiser certains procédés et permettre de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. La transformation digitale de la supply chain offre également la possibilité de répondre aux enjeux RSE via la mesure et le pilotage de la performance, notamment en termes d'émissions de CO2, de gestion des déchets, de santé et sécurité et de formation. Des freins à lever. Malgré cette prise de conscience grandissante concernant les apports de la valeur du digital, deux tiers des directeurs supply chain interrogés s'estiment pas ou peu matures sur les sujets digitaux. Plusieurs freins restent encore à lever dans ce domaine, comme le fait de ne pas disposer d'un système d'information robuste et de données de qualité. La conduite du changement apparaît également comme un point d'amélioration. Lorsque l'on met en place de nouveaux outils digitaux et process, il est essentiel de développer les compétences en interne et d'avoir les profils plus qualifiés en termes d'analyse de données, détaille David Rigaud, directeur au sein des activités de conseil supply chain chez PwC France et Maghreb. Par ailleurs, la crise a mis en lumière des difficultés d'adaptation des processus et outils digitaux aux changements brutaux. Dans cet environnement incertain, les directions supply chain qui seront capables d'ajuster de façon agile leurs processus et outils devraient disposer d'un avantage concurrentiel. Ces technologies qui donnent envie de retourner en magasin à lire sur le JDN en date du 13 juin. Que ce soit pour consolider l'offre, aider un vendeur ou faire revenir les clients, les outils numériques ont désormais trouvé leur place en magasin. Après de multiples essais de robots, bornes et tablettes, les distributeurs ont fini par épurer les solutions proposées en magasin pour garder ce qui fonctionne vraiment. Le client ne vient pas en magasin pour se mettre sur une borne, tranche Maxime Crépin, product manager chez Decathlon Technologies. En tant qu'enseigne spécialisée, c'est d'abord par nos collaborateurs que nous devons apporter une expertise, continue-t-il. L'enseigne nordiste, qui mise donc en priorité sur ses vendeurs pour conseiller ses clients, a choisi d'installer des bornes en complément dans certains rayons pour répondre à une problématique spécifique. Sur ces 100 000 références, seule une toute petite partie rentre effectivement dans ces magasins. Pour des produits très volumineux comme les tables de tennis de table, Decathlon va exposer un seul modèle et disposer une borne en rayon présentant le reste de la gamme. Que ce soit via l'application mobile, sur le smartphone du vendeur ou sur la borne en rayon, le client va pouvoir sélectionner des modèles, faire des comparatifs, accéder à des avis, regarder les disponibilités et les caractéristiques du produit directement en magasin, pointe Maxime Crépin. Sur un produit complexe et coûteux comme la table de tennis de table et pour lequel nous n'aurons pas forcément d'experts en magasin, la borne ou le smartphone nous permettent de fournir la bonne information au client et de l'accompagner jusqu'à l'achat du produit, poursuit-il. Borne d'extension de gamme. Frédéric Baby Marin-Puy a lui aussi misé sur les bornes tactiles pour faire de l'extension de gamme. Avec son entreprise Retail Lab, il a mis au point Tech It Easy, une borne tactile qui adopte le look du distributeur automatique. Tech It Easy va venir occuper 1 mètre sur les 4 à 5 mètres de linéaire que prennent habituellement des produits comme les cartouches d'encre. Le dispositif présente aux clients les produits disponibles en stock dans le magasin. Notre borne interactive possède un écran tactile sur lequel le client va pouvoir faire son choix à partir du stock du magasin. Il va imprimer un ticket, payer en caisse et récupérer son produit, détaille Frédéric Baby Marin-Puy. Ce jeune entrepreneur a déjà équipé une dizaine de magasins Monoprix ou Système U pour le groupe Vertex. Les cartouches d'encre, par exemple, sont un produit à forte valeur ajoutée avec une marge inférieure à 10% pour le retailer. Elles vont représenter jusqu'à 12 à 15 000 euros de pertes chaque année à cause des vols, énumère Frédéric Baby Marin-Puy. En installant notre borne, nous avons calculé que le chiffre d'affaires sur le rayon augmente et le magasin réalise un bénéfice net 1,7 fois supérieur sur le mètre linéaire en question en incluant le prix de la borne et les 100% de démarque inconnue absorbée, poursuit-il. La solution s'adapte à de nombreux produits, comme par exemple les cartes Pokémon. Elle a pour objectif de rétablir les rayons qui ont quitté les magasins en raison d'un trop grand nombre de pertes et d'éviter que le trafic ne se reporte vers le site d'un pure player. Vendeur augmenté. Chez Decathlon, tout comme chez Fnac Darty, on parle maintenant de vendeur augmenté. Ces enseignes ont bien compris que leurs clients viennent en magasin pour obtenir du conseil et une expertise, sans quoi il leur suffit de se rendre directement sur Internet. L'objectif chez l'équipementier sportif va être de libérer au maximum les bras de ses vendeurs pour qu'ils se consacrent principalement à leur métier de conseil. Avec son smartphone Android et une application dédiée, le vendeur va pouvoir accompagner le client du choix du produit jusqu'à l'achat qui peut se faire directement en rayon, le tout connecté au stock global de l'entreprise pour pouvoir proposer le maximum de références. Fnac Darty propose des conseils propose les conseils de ses vendeurs par visio. Lorsque le trafic est moindre en magasin, le vendeur va pouvoir se mettre à disposition pour assurer du conseil par visio et accompagner les achats d'un client à distance. Depuis son lancement, le service a enregistré 150 000 connexions. Pour les équipes Fnac Darty, la visio réconcilie le vendeur avec le digital en magasin et crée de la continuité entre d'un côté son expertise et de l'autre les services proposés en ligne. Ship from store. La crise sanitaire a contribué au renforcement des ponts entre digital et physique. Les magasins ont dû abaisser leurs rideaux et assurer l'essentiel de leurs ventes via leur site internet. Ils ont donc unifié leur stock pour proposer le maximum de références à leurs clients. Le ship from store, qui consiste à envoyer les commandes depuis un magasin physique et non le centre de distribution, s'est généralisé. David Sobel, le président et cofondateur de The Oz, une agence spécialisée en e-commerce, y voit surtout une opportunité. Sur les sites internet, les micro-ruptures se multiplient et cela n'est pas acceptable pour les clients. Une marque doit être en mesure de proposer une profondeur de stock maximale, note David Sobel. Le Ship from Store est une réponse à cette problématique et va permettre d'absorber les augmentations de flux que génère l'envoi d'une newsletter par exemple, poursuit le président de The Oz. Lorsqu'une référence n'est plus disponible en magasin, le vendeur va pouvoir tout de même la commander pour le client et le faire livrer chez lui, soit depuis un entrepôt, soit depuis un autre magasin. Là aussi, le vendeur est mis à contribution pour préparer les commandes et parfois même procéder à l'envoi. Géolocalisation. The Oz mise aussi sur les outils numériques pour diriger du trafic vers le magasin. Nous investissons 20% du budget digital dans la géolocalisation sur Google, détaille David Sobel. Le principe est simple. Lorsqu'un client va rechercher un produit sur Google, grâce à la géolocalisation, notre magasin va remonter dans les premiers résultats, continue-t-il. Derrière, la marque va pouvoir récupérer les statistiques du service et son ROI. Le président de The Oz croit beaucoup en cette solution. Le client a eu la bonne information au bon moment et c'est exactement ce que nous recherchons pour amener du trafic en magasin. Aujourd'hui, les marques souffrent de manière générale d'un déficit de trafic en magasin et la géolocalisation a un vrai impact. Grâce à des technologies plus matures, les barrières entre online et offline sont de moins en moins rigides et les retailers sont en mesure de proposer des expériences de plus en plus souples et intuitives à leurs clients. La transformation responsable des marques, mythe ou réalité, à lire sur e-marketing.fr en date du 8 juin. L'ADTEM dévoile les résultats de son nouveau baromètre ADTEM Opinion Way de la transformation responsable des entreprises. Les marketeurs sont-ils prêts à faire des efforts ? L'ADTEM, réseau du marketing en France, a publié une étude menée avec Opinion Way sur l'ensemble du territoire auprès des décideurs marketing et communication et de dirigeants. Dans un contexte marqué par des enjeux environnementaux et sociétaux, mais aussi les problématiques du pouvoir d'achat et du difficile approvisionnement des matières premières, comment les acteurs du marketing envisagent-ils leur engagement sociétal ? Le développement économique reste sans surprise la priorité des marques. L'étude confirme que l'un des objectifs des entreprises en 2022 est la conquête de nouveaux clients, suivi par la mise en œuvre d'un marketing plus responsable et enfin la croissance de l'activité. Dans l'ère du post-Covid, 41% des marketeurs déclarent un manque de moyens humains et 39% un manque de moyens financiers pour mener à bien leur activité en 2022. Malgré les nombreuses difficultés, 96% des marketeurs se sentent concernés par le développement durable et 93% par le marketing responsable. Les entreprises s'engagent alors de plus en plus en faveur du développement durable et une grande partie, 77%, estiment que leur entreprise est déjà engagée dans une démarche marketing responsable. Les marketeurs les plus engagés mettent en place de nombreuses actions en interne afin de pratiquer un marketing plus responsable. Voici le classement des changements souhaités. 78% veulent avoir un impact positif sur la société, 72% travaillent sur la réduction des déchets et des emballages et 66% sur la réduction de l'empreinte environnementale de leurs produits et services. Les difficultés du marketing responsable. La complexité à changer le business model vers plus de responsabilité reste un frein pour 38% des entreprises. En deuxième position, la crainte de perdre de la rentabilité est suivie du manque d'outils et de méthodes pour 29% des répondants. En d'autres termes, les marketeurs n'ont pas tous les bonnes cartes en main pour cheminer vers la transformation responsable de leur entreprise. Ils sont encore 59% à ne pas avoir entamé d'action sur la sobriété numérique par exemple. Certains pensent que leurs consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher pour une offre de qualité environnementale supérieure et pour une qualité sociale supérieure. Ainsi, les acteurs marketing ont aujourd'hui le sentiment que les business models des entreprises sont peu compatibles avec la conduite d'un marketing responsable. Au total, 89% des entreprises s'accordent à dire qu'il faut changer la politique business de leur entreprise pour conduire une stratégie optimum de marketing responsable. Pour répondre aux enjeux sociétaux et aux contraintes budgétaires des clients, les entreprises vont alors devoir se réinventer et trouver de nouvelles solutions. Une bonne part des entreprises, 41%, jugent utile d'avoir accès à un guide des bonnes pratiques pour avancer plus sereinement en matière de marketing responsable. Certains seraient preneurs de référentiels et de méthodes qui ont fait leurs preuves, puis 31% des sondés souhaiteraient des benchmarks sectoriels. Les impacts positifs et négatifs de la mode de seconde main à lire sur le JDN en date du 10 juin. N'y a-t-il que les bénéfices environnementaux et sociétaux à ce nouveau mode de consommation ? Ces dernières années, le réemploi s'est fortement développé dans le monde du textile et est venu complètement révolutionner la mode. Qu'est-ce que le réemploi ? C'est tout simplement donner une seconde vie à un produit en lui redonnant le même usage. Par exemple, acheter une en friperie, c'est du réemploi. En 2019, le marché des vêtements d'occasion augmentait 21 fois plus rapidement que celui du neuf. Quels sont les impacts de ce mode de consommation de plus en plus courant ? N'y a-t-il que des bénéfices environnementaux et sociétaux à acheter de la seconde main ? Le sujet fait particulièrement débat ces derniers mois. État des lieux. Revenons d'abord sur quelques chiffres clés des impacts environnementaux de la filière textile. Chaque année, ce sont plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus dans le monde, un chiffre en constante augmentation et qui fait de l'industrie textile l'une des plus polluantes. En effet, sur le seul marché français, l'empreinte carbone serait de 22,9 millions de tonnes, principalement émises dans les pays producteurs. C'est l'équivalent de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la Croatie. Et les impacts ne sont évidemment pas que sur le changement climatique. Le textile serait responsable de 20% de la pollution des eaux, de l'eau, utiliserait 70 millions de barils de pétrole chaque année seulement pour le polyester et un quart des pesticides mondiaux pour la culture du coton. Impact sur le changement climatique. Alors évidemment, acheter un vêtement de seconde main au lieu d'un vêtement neuf limite les impacts environnementaux. D'après une étude de l'ADEME, en 2017, choisir un jean d'occasion réduirait l'impact sur le changement climatique lié à la production de 80 à 100% par rapport au neuf. Et ce, à partir de seulement 2 semaines d'allongement de la vie du produit. En se référant à la base carbone de l'ADEME, pour l'impact d'un jean neuf, c'est au moins 18,5 kg de CO2 qui sont économisés par pièce. Réfléchissons maintenant à grande échelle. Le jean est l'un des vêtements préférés des Français, il s'en vend plus de 60 millions dans l'Hexagone chaque année. En utilisant les données précédentes, si un jean sur 5 vendu en France était de seconde main, c'est 220 000 tonnes de CO2 équivalent qui seraient économisées, soit l'équivalent des trajets annuels en voiture de plus de 100 000 Français. Impact sur une ressource précieuse, l'eau. Acheter un vêtement de seconde main, c'est également préserver l'eau nécessaire à sa fabrication. En restant toujours sur le jean et en prenant une empreinte en eau de 7000 litres par pièce, si on garde notre scénario précédent d'un jean sur 5 acheté d'occasion, ce serait 84 millions de litres d'eau économisés, de quoi remplir une trentaine de piscines olympiques. Impact sociétaux et effet rebond. Cependant, toutes ces hypothèses partent du principe que l'achat d'occasion se fait au substitut d'un achat neuf. Or, on remarque un effet rebond de surconsommation sur le marché de la seconde main. On achète plus que nécessaire car les prix sont plus bas, ou on vend des vêtements pour en acheter d'autres neufs. Il est donc important de toujours se poser la question de la nécessité de l'achat en utilisant la méthode bisou, par exemple, le produit qui a le moins d'impact est celui qu'on a déjà. Il est également important de se poser la question de l'impact social de la seconde main et plus particulièrement de l'essor de la vente entre particuliers. Ces dernières années, les structures de l'ESS, Économie sociale et solidaire, telles qu'Emmaüs ou la Croix-Rouge, collectaient vos anciens vêtements pour les trier et les revendre dans un cadre de réinsertion sociale. Bien que ces structures aient bénéficié de l'essor de la seconde main en voyant grimper en flèche l'attrait pour les friperies, elles font face à deux problématiques qui viennent fragiliser leur modèle. D'une part, on observe une qualité de dons en baisse, ce que les structures appellent la crème, les belles pièces pouvant être facilement vendues, arrivent de moins en moins nombreuses dans leurs locaux. En effet, par souci de pouvoir d'achat, les citoyens vendent eux-mêmes ce qui a encore une valeur marchande et donnent le reste. D'autre part, les plateformes de vente entre particuliers se mettent en concurrence directe de ces structures. Les prix pratiqués peuvent y être très bas par rapport aux prix solidaires qui ont des coûts de fonctionnement à amortir. La seconde main reste globalement bénéfique pour la planète et la société. L'important est de rester dans une logique de consommation raisonnée et qui ne met pas au second plan les structures solidaires. L'un des enjeux clés du réemploi, c'est aussi la durabilité des produits. Donc, comme pour acheter du neuf, on mise sur des intemporels et du solide et on fait attention à l'entretien de ses vêtements. Acheter d'occasion ne doit pas être un prétexte à la surconsommation ou aux achats jetables. Il y a donc un vrai intérêt à informer, à accompagner le consommateur pour que les solutions de prolongement de vie des produits soient le plus accessibles à tous. La Fédération nationale de l'habillement demande à revoir la politique des soldes, à lire sur fashionunited.fr en date du 13 juin. Alors que les soldes d'été démarrent le 22 juin 2022, la Fédération nationale de l'habillement appelle à revoir le fonctionnement des soldes qui favorisent les grandes enseignes et le e-commerce. Sur les réseaux sociaux, la plupart des détaillants multimarques sont vent debout contre une date choisie pour les soldes d'été, le mercredi 22 juin, estimée trop tôt compte tenu, entre autres, des retards de livraison et du manque d'enthousiasme face aux derniers soldes d'hiver. La Confédération des indépendants et le Collectif national de l'équipement de la personne avaient déjà interpellé les ministres concernés sur la question. Le 9 juin, c'est au tour de la Fédération nationale de l'habillement de publier un communiqué qui demande à revoir le fonctionnement des soldes pour retrouver une équité des conditions de concurrence entre grandes enseignes, e-commerce et commerçants traditionnels. Brader les collections d'été au début de l'été, une absurdité. Alors que l'article 16 de la loi 2019-486 va être appliqué pour la première fois, la Fédération nationale de l'habillement tire la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, les commerçants devront brader les collections d'été qu'ils viennent de recevoir dès le 22 juin. Rappelons qu'initialement, les soldes avaient lieu à la fin de l'été pour écouler les stocks et présenter la nouvelle collection à nos clients. Des soldes d'été un jour seulement après le début officiel de la saison d'été ne fait pas de sens. Pourquoi brader les produits adaptés à la saison en poussant au consumérisme alors que la France souhaite s'engager dans une démarche d'économie raisonnée ? S'interroge Franck Houette, vice-président de la Fédération nationale de l'habillement. Reconnecter les soldes à la vie des territoires dans l'intérêt de tout le monde. Pour la Fédération nationale de l'habillement, il s'agit d'assouplir non pas le cadre légal des soldes, mais les périodes autorisées. Il existe déjà des départements qui ont des dérogations, les frontaliers et l'outre-mer. La Fédération nationale de l'habillement demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre exemple sur l'Allemagne où il y a plus de périodes de soldes réglementées depuis 2004 et de laisser aux commerçants le soin d'organiser leurs semaines de soldes dont la durée resterait strictement encadrée en fonction de la dynamique de leur territoire et de leur situation économique. Dans les centres-villes, on pourrait imaginer que les commerçants puissent bénéficier des périodes touristiques de vacances pour organiser leurs soldes, ou dans le sud de la France, où l'été dure plus longtemps que les soldes, que des soldes de fin de saison arrivent mi-septembre, par exemple. Est-il indiqué dans le communiqué. L'idée n'est pas de renoncer aux soldes, mais de les réaliser à des meilleures périodes. Cela éviterait sans doute des débuts de soldes avec des promotions avant les premières semaines qui mécontentent les consommateurs avec de vrais soldes à la bonne saison, conclut Florence Bonnet-Touré, secrétaire générale. À propos de la Fédération nationale de l'habillement, la FNH est la seule organisation représentative de commerce indépendant ayant une activité dans le prêt-à-porter et le textile. Elle rassemble 30 300 boutiques multimarques et monomarques affiliées à une enseigne ou franchise avec ou sans marque. Ces commerçants concrétisent aujourd'hui 78 800 emplois en France et réalisent un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.